déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons une émission animée par l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. La série s'intitule « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».
Bonjour, chers amis. Nous allons avoir la joie, le plaisir de méditer sur la deuxième épître aux Corinthiens, deuxième épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Ce ne sera pas un commentaire verset par verset, ce serait trop long et fastidieux, mais nous allons voir un petit peu, les passages saillants de cette lettre que Paul adresse donc aux Corinthiens, probablement vers 57. Il l'aurait écrite depuis Philippe qui est une ville de Macédoine, c'est-à-dire du nord de la Grèce. Corinthe est dans l'isthme corinthien, c'est-à-dire plutôt dans la partie de l'Achaïe, du sud de la Grèce. Paul a fondé, comme vous savez, cette église, Corinthe. Il en est le père, l'auteur, si l'on peut dire. Mais sa relation avec cette communauté est assez passionnelle. On pourrait dire, comme en anglais, « love and hate relation ». Mais c'est l'amour qui va triompher au terme. Mais pour bien comprendre cette lettre, qui n'est pas toujours facile de lecture, parce qu'elle est dans un contexte qui est un peu compliqué, il faut la situer dans une suite d'événements. Il y aurait eu en fait 4 lettres et une visite principale de Paul aux Corinthiens. La première lettre que l'on ne connaît pas, Paul y fait allusion dans la première lettre aux Corinthiens, verset 5, chapitre 9, est suivie de la première que nous connaissons bien, que nous avons d'ailleurs médité ensemble l'année dernière. Cette première lettre qui est assez vigoureuse, qui cherche à corriger toutes sortes de déviances et de dérapages, a été suivie au printemps 57 d'une visite à Corinthe, un retour après donc la fondation, mais cette visite, dit Paul, s'est faite dans la tristesse. Il le dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Il semble que l'autorité de Paul ait été profondément blessée. Et donc Paul se retire et finalement il écrit une autre lettre dans les larmes, sévère, dit-il, mais qui apparemment va porter ses fruits, puisque Paul va recevoir de Tite une visite en Macédoine qui lui apprend le repentir donc des frères et sœurs, des membres de la communauté chrétienne de Corinthe qui veulent se réconcilier avec lui et reconnaître son autorité. Après ces bonnes nouvelles en Macédoine qui ont succédé à la lettre écrite dans les larmes que nous ne connaissons pas, bien arrivera donc la deuxième lettre aux Corinthiens, qui est une lettre où Paul se réjouit de cette réconciliation, mais en même temps, il sent que cette restauration est un peu fragile. C'est pour ça que cette lettre souffle, je dirais, le chaud et le froid. Paul est à la fois tendre et parfois sévère, mais en tout cas, il se réjouit de ce que les choses vont dans le bon sens. Donc c'est un petit peu dans ce contexte que on lit cette deuxième lettre aux Corinthiens, qui est surtout une apologie. D'ailleurs, dans les deux lettres, Paul sent bien que son autorité est contestée. On va voir pourquoi un peu plus loin. Et ces deux lettres nous font réfléchir sur la question de l'autorité. On va en parler aussi un petit peu plus loin, car l'autorité signifie, étymologiquement, on vient d'un verbe latin, augere, qui signifie augmenter, croître. C'est de là aussi que vient le mot auteur. Donc, et ça s'applique bien à notre ami Saint Paul, puisqu'il est l'auteur, d'une certaine manière, de cette communauté chrétienne. Et c'est lui qui en a assuré la croissance. Rappelez-vous ce qu'il dit dans la première lettre. Paul a semé, Apollos a arrosé, Dieu a donné la croissance. Mais c'est quand même Paul qui a veillé à cette croissance. Donc, il peut exercer une autorité parce qu'il donne la vie en acceptant de mourir. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans cette passage pathétique du chapitre 3. Il veut prouver son désintéressement et en même temps, ses qualités, ses travaux, ses souffrances au service de cette communauté pour contrer les critiques personnelles dont il a été l'objet et les menaces aussi à l'égard de son autorité. Mais dans les deux lettres aux Corinthiens, on voit que Paul affronte les problèmes internes d'une communauté qui est devant le défi de l'unité. Donc c'est des choses qui sont très contemporaines, très actuelles toujours pour l'Église, les questions d'autorité et d'unité. Saint Jean Chrysostome dit que ces deux lettres aux Corinthiens sont comme le cœur et l'esprit de Saint Paul. En tout cas, toute la deuxième lettre aux Corinthiens exalte sur un ton à la fois enthousiaste et dramatique le ministère apostolique. C'est pourquoi nous appellerons ces méditations sur la deuxième lettre aux Corinthiens comme étant une méditation sur la condition d'apôtre, la condition apostolique. Au cœur de cette deuxième lettre aux Corinthiens, il y a le chapitre 5, où on trouve au fond toute la théologie du ministère apostolique que Paul conçoit comme un ministère de la réconciliation. C'est une page magnifique de cette deuxième lettre. Alors commençons tout simplement la lecture. Nous sommes au chapitre 1 et Paul inaugure donc cette lettre par la structure classique que l'on retrouve dans toutes ces lettres, c'est-à-dire d'abord une adresse, ensuite une salutation et puis une action de grâce. Nous lisons donc chapitre 1, verset 1 et suivant. « Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée le frère à l'Église de Dieu établie à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans l'Achaïe entière, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, adresse et salutation. Vous noterez que Paul se désigne donc comme apôtre du Christ par la volonté de Dieu. On va en reparler un petit peu plus loin sur ce fondement divin de son apostolat. Et il cite Timothée le frère. Parce que dans la tradition juive, un témoignage ou une autorité pour qu'ils aient de la valeur doivent être authentifiés par deux ou trois témoins. Donc, Timothée est comme témoin avec Paul de l'autorité de cette parole. Il s'adresse à tous les saints qui sont dans l'Achaïe entière. À vous, grâce et paix de par Dieu. Grâce en grec, c'est charis, comme ke charitomene, quand l'ange salue Marie. Tu es comblé de grâce. Et paix, c'est le shalom juif. Mais cette paix et cette grâce, bien sûr, on les comprend dans le mystère du Christ, qui accomplissent le sens ultime de la grâce, puisque Paul le dira dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, c'est par grâce, charis, que vous êtes sauvés. Et il dira aussi en Romains au chapitre 5, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés par grâce et le fruit de cette grâce, c'est la paix. Donc, Paul replace les choses dans cette adresse, dans cette action de grâce qui se prolonge par ce qu'on pourrait appeler une hymne. Vous savez, il y a plusieurs hymnes qui sont célèbres dans la littérature paulinienne. Il y a l'hymne aux Philippiens, hein, le Christ Jésus de condition divine ne retint pas jalousement son rang qu'il égalait à Dieu. L'hymne aux Éphésiens qui nous a choisis avant la création du monde, etc. Mais on n'a pas désigné d'hymne aux Corinthiens, si l'on peut dire. Mais moi, je trouve que c'est une hymne à la consolation. Et voici comment nous l'entendons, c'est au verset 3 suivant. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. » Alors, ce thème de la consolation est très important dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas une petite affaire de sensiblerie. La consolation, dit la Bible, est une caractéristique de l'ère messianique et des temps nouveaux. La consolation est un thème qui est revenu dans la Bible ou qui est apparu d'une manière récurrente, notamment au retour d'exil, puisque le peuple hébreu se sentait abandonné de Dieu, Jérusalem se sentait veuve ou orpheline. Et voici ce que dit le livre d'Isaïe au chapitre 40, donc dans le contexte du retour de l'exil. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que son péché est pardonné, que sa pénitence est accomplie. » Donc Jérusalem bénéficie d'une nouvelle ère de paix. Elle entre dans ce monde nouveau qui est promis. Dans Jérusalem, dit encore le prophète, vous serez consolés comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. C'est au chapitre 66 du livre d'Isaïe, verset 13. Mais le véritable consolateur d'Israël, pour le Juif, c'est le Messie qui viendra donc à la plénitude des temps. Ce Messie qui est également annoncé par le même prophète au chapitre 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, leur libération, la libération aux prisonniers, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont en deuil. » Donc, pour les chrétiens, ces temps nouveaux, eh bien, sont déjà inaugurés dans le Christ. Pour le Juif, c'est un temps utopique, c'est un temps qui n'est pas encore réalisé, qui viendra au jour de Dieu. Mais pour nous, en Jésus-Christ, ces temps nouveaux sont présents. Et donc, nous pouvons déjà bénéficier de la consolation messianique, si on peut dire la consolation des temps nouveaux, par la présence du Christ. Et après sa glorification et le don de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient réaliser dans nos cœurs ce réconfort et cet encouragement. Ce réconfort, nous dit Paul, donc trouve sa source en Dieu, le Dieu des miséricordes, le Père de toute consolation qui nous console dans toute notre tribulation. La consolation, nous la trouvons dans les Écritures. Paul nous dit dans Romains au chapitre 15, verset 4, « Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. » Donc on voit ici que la consolation est liée à cette vertu d'espérance. L'espérance, c'est d'attendre avec confiance la réalisation des promesses de Dieu. Effectivement, si on veut tenir dans les épreuves, et la vie est pleine d'épreuves, et la vie chrétienne encore plus, si on peut dire, mais encore plus aussi remplie de consolation. Sinon, on ne pourrait pas tenir. Saint Thomas d'Aquin le dit lui-même, l'homme ne peut pas vivre sans consolation sensible. Et on pourrait dire que dans l'expérience chrétienne, la vie chrétienne, il y a comme l'équilibre de la croix. Ce que dit Paul, « De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde notre consolation. Donc, Dieu ne permet pas, comme il dit Paul aussi dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il donne la force de la supporter et le moyen d'en sortir. Et cette consolation est par excellence l'œuvre de l'Esprit-Saint que l'Église appelle dans le Veni Sancte Spiritus, la prière, le chant traditionnel de la Pentecôte avec le Veni Creator, donc appelle l'Esprit-Saint le souverain consolateur. Magnifique expression. Ici, Paul donc désigne le Père comme la source de toute consolation. Comment ne pas penser aussi à cette belle figure, à cette belle parabole de l'enfant prodigue qui, dans les bras de son père, à la fois paternel et maternel, est consolé par le pardon de ses péchés. Et pour nous chrétiens, le sacrement de la réconciliation est aussi un lieu de réconfort où nous faisons l'expérience de la gratuité du don de Dieu du pardon. La présence de la Vierge Marie aussi est une source de consolation. Le Christ nous l'a donné au pied de la croix, nous disant « Voici ta mère », hein, comme dit le prophète, on l'a dit tout à l'heure, « comme un enfant que sa mère console, ainsi vous serez consolés ». La vie fraternelle aussi est un lieu de consolation, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, nous dit le psaume. Mais aussi la vie paroissiale, la louange, tout ce que le christianisme nous apporte est là pour que nous soyons consolés. Mais Paul nous dit que ces consolations ne sont pas seulement pour nous, mais c'est afin que, consolés de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Et nous faisons l'expérience dans la vie chrétienne combien nous avons besoin d'être encouragés, d'être réconfortés. Il y a même des gens, je trouve, autour de moi qui ont un peu ce charisme de l'encouragement et du réconfort. Il y a même un homme dans les Actes des Apôtres qu'on a surnommé Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement. C'est celui qui sait réconforter, nous dit les Actes au chapitre 11, verset 23. Il s'agissait de Joseph de Chypre, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Et donc Paul nous dit, nous savons que partageant notre tribulation, vous partagerez aussi notre consolation. Donc il y a dans l'expérience de la vie de l'Église comme une communion de souffrance et de consolation entre les apôtres et les fidèles. Et comme dira Paul un peu plus loin, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Et Paul aime dans cette deuxième aux Corinthiens manier le paradoxe ou les antithèses, on le verra tout au long de ses écritures. Il aime opposer comme ici tribulation et consolation. Un peu plus loin, pauvreté et richesse, le Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté. Il nous parlera de faiblesse et de force. Rappelez-vous quand il dira « c'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Il nous parlera de vie et de mort. La mort, comme je le disais tout à l'heure, fait son œuvre en nous et la vie en vous. Mais tout cela illustre le mouvement profond, je dirais le secret spirituel de la vie de saint Paul et de toute la vie chrétienne, qui est le mystère pascal. Paul est un homme, comme vous le savez, qui a été comme plongé mystiquement dans la mort sur le chemin de Damas pendant 3 jours, et il en est sorti par l'intervention d'un frère qui a prié sur lui, par la grâce du baptême, qui l'a fait véritablement renaître. Son expérience a été vraiment une expérience d'un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et du péché à la grâce. Ce sont les paradoxes de l'Évangile, en fait. Jésus le dit souvent, « Qui perd sa vie la trouvera. » Ou bien dans les Béatitudes, il y a aussi une série de paradoxes. Par exemple, « Heureux les affligés, ils seront consolés. » Alors, Paul continue à propos de justement cette souffrance et cette consolation dans les versets 8 et 9, toujours au premier chapitre de la deuxième lettre aux Corinthiens. « Nous ne voulons pas vous le laisser ignorer, frère, la détresse que nous avons connue dans la province d'Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous ne savions même plus si nous allions rester en vie. Mais si nous nous sommes trouvés sous le coup d'un arrêt de mort, c'était pour que notre confiance ne soit plus en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Donc, On le voit tout au long des écrits, des lignes de cette très belle lettre, cette deuxième lettre aux Corinthiens. Pour Paul, toutes choses sont fondées en ce Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie, qui nous fait passer de la tribulation à la consolation, de la perdition au salut. Alors, à partir du chapitre 1, versets 18 à 22, Paul commence à entrer dans le vif du sujet. Parce que la grande thématique quand même de cette deuxième lettre aux Corinthiens, c'est l'apologie. Elle sera plus intense dans les versets 11 à 13. Mais déjà, Paul amorce cette démarche de l'apologie de son autorité et de la justification de ses actes. Il va le faire à propos d'un voyage qui avait été planifié et qu'il a remis, et il s'en explique. Mais souvent, chez saint Paul, on trouve des magnifiques développements théologiques à partir d'interpellations que Paul va adresser sur des questions morales ou liturgiques ou spirituelles. Et donc, nous avons un passage magnifique que je vais vous lire maintenant, qui nous montre encore une fois la fondation divine de son autorité apostolique. Donc c'est au chapitre 1, versets 18 à 22. « En fait, Dieu, en égarant, la parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. » Alors, ces propos sont magnifiques. Juste avant, Paul dira « Mes propos s'inspirent-ils de la chair en sorte qu'il y a en moi oui et non ?» Et ici, il ne se justifie pas à partir de ses intentions ou des circonstances, mais il élève le débat, comme il le fait souvent, à la lumière du Christ. Évidemment, on pense à ce passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 37, où le Christ nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du diable. Mais ce n'est pas tant dans un angle moral que Paul veut réaffirmer cette cohérence, si l'on peut dire, de son apostolat, mais c'est d'une manière plutôt théologale. Il veut montrer que c'est Dieu qu'il a jugé digne de confiance. Rappelez-vous ce qu'il dit dans la première lettre à Timothée au chapitre 1, versets 12 à 14. « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. » Donc, Paul montre qu'il y a comme un analogué ou une équivalence entre le oui de Jésus au Père et le oui des apôtres à Jésus lui-même. Hein? Ce qu'il dit, le Fils de Dieu que nous avons lancé n'a pas été oui et non, et nous-mêmes, nous disons notre Amen, notre oui pour sa gloire. Donc, de même que le oui du Fils au Père dans l'éternité est venu se prononcer dans le temps, dans la chair, dans l'incarnation, eh bien, le prolongement de cette incarnation du oui du Christ se fait dans l'apostolat des apôtres, de Paul et de ses compagnons. Oui, le Christ est venu dire oui à Dieu dans la condition humaine. Et voici ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 5 et suivants. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Et ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons : Tout ce que je fais, dit Jésus, je l'ai vu d'auprès du Père. Tout ce que je dis, je l'ai entendu d'auprès du Père. Il ajoute : Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce oui va trouver son expression la plus dramatique à Gethsémani, quand Jésus dira que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et toutes les promesses donc de Dieu trouvent leur oui dans la personne de Jésus. C'est ce qu'il dira aux disciples d'Emmaüs au chapitre 24 du livre de Saint-Luc. Ne fallait-il pas que le Messie souffrît avant d'entrer dans sa gloire ? Et il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Mais peut-être que la plus grande promesse de Dieu qui se réalise dans le Christ, c'est la résurrection qui est source d'espérance. Car ce que Dieu nous promet en son Fils Jésus-Christ, c'est un héritage de vie éternelle. Et donc Paul dit aussi : Est-ce en lui que nous disons Amen ? Ce « en lui », c'est-à-dire « dans le Christ », est une expression typique de saint Paul et qui est récurrente, mais qui a un sens très profond. Pour Paul, depuis le baptême, nous sommes devenus, ce qu'il dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, un même être avec le Christ, puisque nous avons été identifiés à une mort semblable et à une résurrection semblable. Il dira aussi dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et donc pour saint Paul, la vie chrétienne n'est pas seulement une imitation du Christ, mais une inhabitation du Christ. Alors, le texte dit « Aussi bien est-ce en lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu ». Amen, dans la Bible, ça veut dire « c'est solide, c'est digne de confiance ». Alors, cette confiance envers les apôtres se fonde sur la solidité du Christ dans son Amen au Père. Et la fondation de l'Église est la preuve de cette solidité. Il dira un petit peu plus loin, on va en parler à la prochaine rencontre, « Vous êtes une lettre du Christ. Vous êtes la démonstration que notre Amen est solide, qu'il est fondé dans le Christ, puisque vous avez été convertis, vous avez été rassemblés, vous avez été, comme il dira dans la première lettre, lavés, sanctifiés, justifiés dans le nom de Jésus et l'Esprit de notre Dieu. » Et cela nous ramène à la question de l'autorité, on en a parlé au début, « augere, augmenter, croître ». Paul est à la fois l'auteur et le père. C'est une question qui revient sans cesse dans l'histoire de l'Église, la question de l'autorité. Mais il faut se rappeler qu'elle se fonde dans le Christ déjà dans les Écritures. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 16, verset 16, Jésus déclare à Pierre : « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, etc. Au chapitre 20 de l'Évangile de saint Jean, Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Ailleurs, dans les synoptiques, nous disons « Il leur donna autorité sur les esprits mauvais. » Donc la source de l'autorité, qui est encore une fois une faculté de donner la vie et de faire croître, eh bien, dans « il se passe » d'une manière contemporaine à l'action du Christ. Déjà, il fonde son Église sur cette puissance et cette autorité qu'il délègue à son Église. Et Paul continue au verset 21 et 22 pour nous montrer que cette autorité, elle est d'une certaine manière fondée dans la Trinité. Remarquez ici qu'on fait allusion au Christ, au Père et à l'Esprit. Verset 21, donc, « Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. » Il nous a marqués de son sceau, il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur saint don. Donc, celui qui nous rend solides, c'est le Christ, qui nous a consacrés, c'est Dieu, donc le Père, et qui nous a marqués de son sceau, c'est l'Esprit Saint. Donc, l'autorité fondée sur le oui du Christ à Dieu, confirmée par le sceau de l'Esprit, avec les signes qui accompagnent, fondation, conversion, miracle, tous les signes de l'authentique apostolicité de Paul et de ses compagnons. Et c'est ce qui fait l'essentiel de l'objet de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Et pour terminer, je rappelle encore ce passage des versets 21 et 22. « Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau, il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. »
À déroulement du livre, vous venez d'entendre l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, dans une série intitulée « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».